Bonjour à vous tous et toutes. Bienvenue ici dans ce lieu de culte, ici à Mérin Village. Bienvenue aussi à vous qui êtes chez vous, qui regardez par le streaming. Bienvenue à chacun dans cette famille ici à Mérin. Et ici aussi, bienvenue aussi à cette famille qui se réunit dans le monde entier. Donc soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Donc c'est Exo qui nous accueille ce matin avec ce premier chant. Choisissez la vie. Entre la mort et la vie, choisissez la vie. Et j'ai envie de vous lire comme introduction dans l'évangile de Jean. Jean 12. Jésus leur répondit. L'heure où le Fils de l'homme va être enlevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et par rapport au thème de ce culte, la mort et la résurrection, je trouvais important cette parabole ou cette phrase de Jésus du grain de blé. Mourir pour vivre, mourir pour donner du fruit. C'est l'invitation de Jésus. C'est sûr, cela implique un lâcher-prise sur la direction de notre vie. Et en tant que chrétiens, nous connaissons bien ce principe, c'est la conversion. Comme les grains de blé que nous sommes dans la main de Jésus, nous pouvons rester dans sa grange ou nous pouvons rester moi, dans notre moi. Mais s'ils acceptent de tomber en terre et mourir, alors c'est sûr que c'est quelque part disparaître, c'est quelque part renoncer. mais le Christ nous a précédés dans cette démarche. Alors mourir comme Jésus, avec Jésus, bien que difficile, moralement, physiquement, affectivement, c'est mourir, mais avec une espérance. Une espérance de servir, de donner du fruit, même beaucoup de fruits. Est-ce que pour nous chrétiens, le synonyme alors du mot mort ne pourrait pas être le mot espérance? Je vous propose de prier et de remettre ce culte à Dieu. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce temps que nous avons de nous retrouver dans notre famille ici à Mérin, mais dans cette famille élargie qui est dans le monde entier, Seigneur, toutes les personnes qui te louent aujourd'hui. Merci aussi de rejoindre ceux qui n'ont pas pu venir ou qui sont alités ou malades. Seigneur, nous voulons ta présence toute particulière auprès d'eux. Et Seigneur, merci parce que c'est un temps béni où tu nous rejoins. Tu nous rejoins chaque jour, mais aussi en communauté aujourd'hui. Alors Seigneur, fais-nous du bien, Seigneur, que par nos paroles, par les chants, Seigneur, tu puisses nous parler. Et Seigneur, que nous puissions aussi t'apporter notre louange, pas la mienne, mais Seigneur, la nôtre, notre louange de notre communauté, de ta famille, Seigneur. Alors Seigneur, bénis ce temps où nous sommes ensemble. Bénis ce temps où tu peux être avec nous en communauté et tu peux être avec nous, Seigneur Jésus, où que nous soyons. Alors bénis ce temps, Seigneur Jésus. Nous te le demandons, ta présence. Amen. Voilà pour la louange. J'avais envie de vous partager un texte aussi dans les Corinthiens. Alors Philippe va vous emmener en Thessalonique. Moi, je vous emmène à Corinthe. Je ne sais pas si vous avez pu visiter un peu cette ville, mais il y a une grande faille qu'ils ont creusée pour que les bateaux puissent rejoindre d'un côté et l'autre de la mer Égée, je crois. Alors je vous lis dans 1 Corinthiens 15, les versets 35 à 38. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou bien d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et je crois que c'est aussi ce Jésus qui nous donne un corps, qui nous donne une vie. Et je vous propose qu'on prenne ce premier chant de héritage en Jésus seul. Alors, vous pouvez peut-être le parler, dire les paroles à haute voix. Peut-être le psalmodier, donc tout doucement derrière votre masque. Et je crois qu'on peut aussi partager ce chant avec ce groupe. Je profite aussi pour remercier la technique, Ashley et Sylvain, pour leur présence et puis d'avoir préparé tout ce côté technique.
Les luttes serrent. Jésus Saint, Dieu s'est fait chair dans un enfant au cœur mystère. Ce don d'amour, de sainteté, aille par ce qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît. D'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui. Racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Christ, je tiendrai.
C'est aussi le cas pour la résurrection, donc toujours dans Corinthiens. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Et cette vie, c'est Jésus, donc, et c'est un repère pour nos vies, une voile et un ancre qui conduisent notre vie. Alors je vous propose ce chant. Mon encre et ma voile.
Show.
J'invite Philippe à me rejoindre pour la prédication. Et je vais prier pour toi, Philippe. Seigneur Jésus, j'aimerais te remettre Philippe. Seigneur, bénis-le aussi dans sa prédication, Seigneur, dans les choses que tu as à cœur de nous transmettre à travers de sa voix. Seigneur, que tu sois avec lui. Et Seigneur, merci Seigneur pour pouvoir partager avec lui des mots pour toi et des mots avec toi. Alors nous voulons te le remettre entre tes mains, Seigneur, et que nous puissions avoir un cœur et des oreilles pour t'entendre au travers lui. Alors Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, et Seigneur, que nous puissions être encouragés par toi. Amen.
Un jour, nous en aurons fini avec ces multiples précautions sanitaires qui pèsent un peu parfois. Bonjour à chacun, chacune. Il y a quelques mois, avec Célina, nous avons préparé, réfléchi au découpage du texte d'un Thessalonicien, dans le but d'avoir une sorte de plan pour un suivi de prédication. Quand nous le faisons des semaines, voire des mois à l'avance, on n'imagine pas à quel point parfois la réalité, dans ce qu'elle a de âpre, peut nous rejoindre très directement. Et il me faut ce matin vous annoncer le décès de Werner Albisser. Le Seigneur l'a rappelé à lui cette nuit, à l'hôpital de Loyes. Et j'aimerais saluer chaleureusement Denise. Elle m'a dit qu'elle nous regarderait de l'autre côté de l'écran. Elle avait prévu d'être avec nous. Et on comprend bien qu'elle soit à la maison. Denise, on te salue chaleureusement. On pense bien à toi. Et puis à Christophe, à Philippe, aux petits-enfants. On pense à Marie-Thérèse aussi, la sœur de Werner. Et puis à toute la famille. Nous vous donnerons bien sûr un peu plus d'informations dans les jours qui viennent. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, tu tiens entre tes mains notre premier souffle et notre dernier souffle. Tu as rappelé à toi ton serviteur Werner, ton enfant, et nous nous inclinons devant ta souveraineté. Nous pensons ce matin et nous te recommandons tout spécialement Denise, en te demandant de déployer sur elle, sur ses enfants, ses petites filles, toutes les ressources de ta grâce et la consolation qui vient de toi. Je te prie de prendre soin des uns et des autres. Et de nous aider ce matin alors que ta parole rejoint cette actualité pour nous et pour la famille de Denise en particulier. Nous te prions de nous aider à t'entendre. Touchons là, Seigneur, les moments de la vraie vie. Accorde-nous de t'accueillir avec ce que toi tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus, nous te prions ensemble. Amen. Ils sont donc dans cette petite chambre d'hôpital, trois ou quatre debout, autour du lit. Il y a une personne qui est assise à côté du lit et qui tient la main du malade. Puis ces dernières heures, il y a eu des accolades, il y a eu des regards complices, des yeux humides, des sanglots ravalés, beaucoup d'émotions Des mots touchants ont été dits de part et d'autre. Mais maintenant, les visages sont graves. Il y a eu un temps de prière. Le pasteur a lu le psaume 23. Mais là, plus personne ne parle. Les bouches sont sèches. Dans le couloir dehors, la vie de l'hôpital continue. Des bruits de pas, un chariot qui passe, des conversations, des rires même. Dans la chambre, on attend. Tout est comme suspendu. On tend l'oreille, on est accroché à ce souffle si faible. Les pauses entre chaque inspiration sont de plus en plus longues. Et puis c'est le silence. Le silence. Quelqu'un part prévenir l'infirmière. On pleure doucement. On s'embrasse. C'est la fin. Une vie s'en va. Tant d'amour donné, tant d'amour reçu, tant de souvenirs, un long parcours, une somme incroyable de tant d'expériences qui tissent une existence humaine, à chaque fois unique, à chaque fois d'une infinie valeur. Et c'est fini. Alors il reste bien des traces de cette vie sur terre, dans la vie des autres, sur des photos, des films, mais la personne n'est plus là. C'est fini. Ceux et celles que nous aimons s'éteindront un jour. Et nous aussi, un jour, nous mourrons. Est-ce que ce sera vraiment fini ? Est-ce que ce sera vraiment fini ? Je ne crois pas, parce que quand c'est fini, ce n'est pas vraiment fini. À Thessalonique, du temps des apôtres, il y a 1975 ans, l'Église était persécutée, mise à mal. C'était pas simple pour ces nouveaux chrétiens de vivre dans un contexte d'hostilité continue. De nombreux chrétiens se trouvaient en difficulté. Les chrétiens croyaient que le Christ reviendrait sans tarder. Très rapidement, pour tout changer, comme il l'avait promis. Certains alors pensaient que leurs proches n'allaient pas mourir. Certains pensaient que leurs malades guériraient, que la mort serait anéantie. Mais au fil des semaines, au fil des mois, l'un ou l'autre mourait, sans que le Christ ne soit revenu. Ceux et celles qu'ils aimaient s'éteignaient, ne laissant que des souvenirs qui finissaient par se perdre. Et autour d'eux, les difficultés de toutes sortes s'enchaînaient. Et les chrétiens de Thessalonique vivaient alors la même tristesse que les païens de Thessalonique. Pire, ils vivaient une immense déception par rapport à Dieu, par rapport à l'espérance qu'ils avaient entretenue, qu'ils avaient chérie, ils vivaient une immense déception. Ils avaient peut-être cru en vain, ou peut-être avaient-ils cru de travers. Mais la déception était là. L'apôtre Paul va essayer de les éclairer, de les encourager. Et on va lire ou écouter une partie de son encouragement. 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18.
Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles.
Dans de nombreuses traductions de ce texte, nous avons l'apôtre qui parle de ceux qui dorment. La Bible du Semeur interprète cette image et dit plus simplement ceux qui sont décédés. C'est parce que le sommeil, c'est une image assez courante de la mort. On ne parle pas forcément d'une mort paisible d'ailleurs, parce que les Grecs d'autrefois parlaient du sommeil de bronze, c'est-à-dire de la mort violente sur un champ de bataille. À l'arrière-plan du verset 13 que nous venons de lire, il y a donc un premier constat qui peut nous paraître évident. C'est que la mort est un sujet de tristesse pour le croyant comme pour le non-croyant. La mort est un sujet de tristesse pour le croyant comme pour le non-croyant. C'est une tristesse qu'il faut assumer. On ne peut pas faire autrement. C'est une tristesse qui s'impose, qui est incontournable, qui peut être dévastatrice parfois, parce que ceux et celles qui restent sont privés de la présence de quelqu'un qui avait compté pour eux, qu'ils avaient aimé et qui les avait aimés. Et voilà qu'une vie humaine est comme anéantie. Des projets, des idées, des souvenirs finalement s'évaporent. C'est la fin. Alors que tout en nous s'accroche et résiste à cette fin, la repousse, la craint, mais elle finit par arriver. Et la mort d'un prochain nous rappelle donc que nous aussi nous mourrons. Et même quand quelqu'un entre dans la mort paisiblement, même quand quelqu'un entre dans la mort dans la foi, après une vie longue, son passage est cause de tristesse. Et je trouve qu'il est très malsain de nier la tristesse. Et pourtant, nous le faisons de plusieurs manières. Vous entendrez parfois dire, Il est toujours là. Il est passé dans la pièce d'à côté. Ou même, je l'ai entendu, il nous a fait une blague. Au bord d'une tombe, au tout début de mon ministère, il y a 20 ans, j'ai entendu une fois quelqu'un dire « Tu ne pleures pas, tu es chrétienne ». Les uns minimisent la chose parce que la réalité est trop atroce pour qu'on la regarde en face. Les autres la minimisent parce que la foi en Christ serait censée bannir la tristesse. Mais non, c'est faux cette idée. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est faux. Le roi David a composé une lamentation absolument remarquable pour la mort de son ennemi, Saül. Puis une autre lamentation remarquable pour la mort de son ami, Jonathan. Vous trouvez ça en 2 Samuel 1. Jésus lui-même a pleuré devant le tombeau de Lazare. Et j'ai lu quantité de réflexions théologiques à propos de ce petit verset. On dit le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Il n'y avait pas de verset dans la version originale, c'est dans le texte, Jésus pleura. Et je remarque que sur ce petit verset, les chrétiens évangéliques se font des films pour dire « Oui, mais il a pleuré parce que lui-même pensait qu'il allait mourir. » Mais ce n'est pas dans le texte. Pourquoi faut-il que nous cherchions à éviter la tristesse? Jésus pleure parce qu'il a perdu un ami. Les chrétiennes de la ville de Jaffa ont pleuré la mort de l'une d'entre elles, Tabitha. Acte 9, verset 39. Remarquez ici la tournure de l'apôtre. Ashley, si tu peux m'envoyer le troisième slide. L'apôtre Paul ne dit pas « afin que vous ne soyez pas tristes », point final. Il dit plutôt « afin que vous ne soyez pas tristes comme le reste des hommes ». Il y a là un sous-entendu que la Bible du Semeur met en évidence de la même manière, kathos, que le reste des hommes. C'est donc qu'une certaine tristesse est commune, qu'elle est normale, même quand on croit en Christ, même quand on intègre la résurrection. Mais il y a là une différence très importante. Paul dit au verset 13, « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laissez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous attristiez pas de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. » C'est donc que certains meurent dans l'espérance et d'autres pas. Je ne vais pas chercher, moi, à me mettre à la place de Dieu pour décider qui a pu espérer et qui n'a pas espéré. Je suis convaincu qu'il y aura de nombreuses surprises au ciel. Mais si nous restons fidèles à la Bible, nous disons qu'il existe une différence entre les hommes. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu 7, 13 à 14, le Seigneur Jésus a parlé de deux chemins. Un étroit qui mène à la vie et un autre large qui mène à la perdition. Ils sont peu nombreux, dit-il, ceux qui trouvent le chemin de la vie. Ils sont nombreux qui vont à leur perte. Il y a donc bien une différence entre ceux qui appartiennent à Christ et le reste des hommes. Et la différence, c'est l'espérance. La question qui se pose alors est de savoir en quoi consiste cette espérance? Paul l'a décrit au verset 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Cette petite phrase-là, ce petit verset biblique-là, fonde toute la pensée chrétienne sur la mort. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il y a un lien entre le parcours de Jésus et le nôtre. Ce sera pour nous comme ça a été pour Jésus. Il est mort, il est réellement mort. Mais en expirant, Jésus a dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Au brigand qui mourait à ses côtés, il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La vie s'en va. Un dernier souffle. Le corps devient flasque. On le lave, on l'entoure de soins. On l'enterre ou on l'incinère dans le respect. Mais entre-temps, la vie continue. Autrement, mais elle continue. L'esprit se trouve dans la présence de Dieu, avec tous ceux qui ont eu la foi, celle d'un apôtre ou celle d'un assassin repenti à la dernière minute. Et pour Jésus, le parcours ne s'est pas arrêté là. Et pour nous, il ne s'arrêtera pas là. 3 jours après, en comptant à l'ancienne manière, hein, vendredi, samedi, dimanche, Jésus est ressuscité, visiblement, audiblement, tangiblement, corporellement, physiquement, il est vraiment ressuscité. Alors nous sommes bien d'accord, son corps de ressuscité était différent de son corps premier. Il a gardé les marques de 5 blessures comme un rappel de la croix, comme des titres de gloire. Mais il n'y avait aucune autre trace de blessure, aucune trace d'épuisement, aucune trace de souffrance. Ce corps nouveau pouvait se matérialiser dans un jardin, dans une pièce fermée, sur une route pour Emmaüs, dans une auberge, au bord d'un lac, autour de Grillades. Et ce corps pouvait disparaître. Et un jour, il a disparu pour de bon. C'est l'ascension que nous avons fêtée cette semaine. Vous savez, les visions, les hallucinations, les apparitions, ça dépend beaucoup du psychisme humain. Ce sont des choses qui se renouvellent. Il n'y a pas vraiment de point final. Mais Jésus n'était pas le produit d'une vision. Il n'était pas tributaire de la foi, de l'attente, de la ferveur des hommes, encore moins de la superstition et des légendes. Il était libre, il était vivant. Et il est parti dire, par son départ même, qu'il entrait dans son règne et qu'il envoyait son esprit pour être toujours avec les siens et que son départ nous serait même avantageux. Il est avantageux pour vous que je parte. Avantageux pourquoi ? C'est quoi l'avantage de ne plus avoir Jésus à côté de nous ? Le seul avantage, c'est de l'avoir en nous. C'est le don de l'Esprit. C'est Jésus qui se matérialise à l'intérieur de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Sa présence désormais n'est plus à côté de nous, mais en nous. Une présence des profondeurs. Jésus donc, libre, vivant, agissant. Et nous, eh ben c'est comme pour Jésus. La mort, oui. Le paradis en présence du Père, puis la résurrection. Ce qui a été pour lui sera pour nous. Et l'accent tombe dans la pensée chrétienne sur la dernière étape. C'est pour cela que le credo évoque notre résurrection, la résurrection de la chair, pour reprendre les mots traditionnels. C'est-à-dire une résurrection corporelle, physique. Pas pour vivre les mêmes choses que maintenant, mais pas non plus pour vivre une existence éthérée ou cotonneuse. pour vivre plutôt dans une nouvelle création, autrement, infiniment plus complètement, pleinement et richement qu'ici-bas. Je relis ce verset 14. « En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » C'est que leur parcours ne s'arrête pas à la mort. Leur parcours ne s'arrête même pas avec le « aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Leur parcours va jusqu'au fin mot de l'histoire. Il va jusqu'à l'aboutissement de tout. Il va jusqu'au retour du Christ, jusqu'aux transformations qui accompagneront le retour du Christ. Et donc, ceux qui meurent aujourd'hui en Christ ne sont pas des gens désavantagés. Ils participeront au renouvellement de toutes choses, comme les chrétiens restés en vie au moment de son retour. Dieu ramènera avec Jésus, nous dit notre texte, ceux qui sont morts. De leur paradis actuel, ils reviendront. Bien plus, ils ressusciteront. Quand quelqu'un de très important arrive en Suisse, le président de la Confédération ne reste pas à l'attendre tranquillement au palais fédéral à Berne. Le président de la Confédération se rend à Kloten. Il va jusqu'au pied de l'avion, sur un tapis rouge, généralement. C'est tout juste si le président ne monte pas jusqu'à la porte pour ouvrir la porte. Dans l'Antiquité, quand un roi arrivait dans une ville, on allait à sa rencontre, on sortait à sa rencontre. Et l'apôtre Paul a lui aussi eu droit, à un moment donné dans sa vie, à une sorte d'accueil royal. Les chrétiens sont sortis de Rome et ont fait jusqu'à 70 kilomètres pour le rencontrer au Forum d'Appia et l'escorter jusqu'à la capitale, acte 28. Quand Jésus reviendra, et il reviendra, il aura droit à une escorte impériale, du monde avec lui, du monde qui monte à sa rencontre. Sur ma cinquième slide, Ashley, si tu peux, dans les versets 15 à 17, Paul évoque avec force ce jour glorieux. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Il y a une vingtaine d'années, j'ai assisté à une représentation du Messie de Handel au Victoria Hall à Genève. C'est splendide, le Messie de Handel. Puis à un moment donné, la chorale chante, la trompette sonnera. Je ne peux pas vous le faire, hein. Mais c'est splendide. La trompette sonnera. Et là, tout là-haut, dans le poulailler, juste derrière nous, les trompettes ont sonné. Le frisson intégral, les poils. Mais ce frisson qui m'a parcouru à ce moment-là n'était rien par rapport au frisson que nous aurons quand la trompette sonnera pour de bon. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. En Corinthiens 15, verset 51. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dans mon adolescence, j'ai entendu réciter le credo plusieurs fois avec cette petite phrase. Il est monté au ciel, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. C'est dans le credo. Et j'ai dû attendre quelques années pour entendre des amis étudiants en parler sérieusement. Et ma première réaction était de penser, mais je suis tombé où ? C'est un truc de secte, ça, non ? Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et puis au fil du temps, j'ai découvert que ce n'est pas un truc de secte, que c'est dans la Bible, que c'est dans la bouche de Jésus, que c'est sous la plume des prophètes, que c'est sous la plume des apôtres, que c'est dans les évangiles, que c'est dans les actes, que c'est dans les épîtres, sans même parler de l'Apocalypse. Contrairement aux illuminés qui s'emparent de ce sujet, les auteurs bibliques, eux, ne se lancent pas dans des spéculations sans cesse démenties par les faits. Jésus termine ses discours sur la fin en disant « Soyez donc vigilants et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » L'apôtre Paul met donc en avant non pas une doctrine qui vient titiller notre curiosité, mais un enseignement qui a des répercussions sur toute la vie. Et pour conclure, je vous cite les plus évidentes répercussions que me semble révéler ce court passage. En slide 6, nous pouvons avoir de l'espérance face à la mort, au milieu même de la tristesse, parce que quand c'est fini, ce n'est pas fini. Nous pouvons avoir de l'espérance face à la mort. Une deuxième répercussion. Nous pouvons regarder au-delà des épreuves. Nous pouvons regarder au-delà des épreuves. Parce qu'infiniment mieux nous attend. Ce n'est pas pour nous consoler à bon compte que nous le disons, mais c'est pour mettre les choses en perspective. En slide 8, et c'est une troisième répercussion, c'est qu'avec un texte comme celui-ci, nous comprenons mieux le grand dessein de Dieu. Le grand dessein de Dieu, il l'a mis en action dans le Christ. Le grand dessein de Dieu, c'est le Christ. Une avant-dernière répercussion concrète, c'est que nous essayons, nous, de bâtir une communauté de l'espérance. Ce par quoi j'entends, une communauté où nous nous encourageons les uns les autres. Pas seulement au moment d'un deuil, particulièrement au moment d'un deuil, mais pas seulement au moment d'un deuil, tout au long de la vie. Nous nous encourageons les uns les autres. Nous nous rappelons que les épreuves du moment présent ne sont pas tout, qu'il y a infiniment mieux qui nous attend. Et finalement, nous bâtissons notre vision du monde sur Jésus. Pour la faire courte, sur sa résurrection, sur son règne, sur son retour. Ce sont là les pierres de touche de notre foi et tout le reste n'est que garniture. Jésus, sa résurrection, son règne, son retour. Quand ? Jusqu'à quand ? Demande des chrétiens et des chrétiennes confrontés à la douleur du deuil et de la séparation. Quand ? Jusqu'à quand ? Quand, jusqu'à quand, demandent des chrétiens persécutés? Quand, jusqu'à quand, demandent des chrétiens et des chrétiennes ordinaires, comme vous et moi, confrontés parfois à l'absurdité de la vie? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il reviendra. Jésus, sa résurrection, son règne, son retour. En attendant, consolons-nous donc avec ces paroles. Et réjouissons-nous aussi. Rencontrer le Seigneur. Être toujours avec le Seigneur. Si cela ne nous fait pas frissonner,
j'aimerais vous proposer un moment de prière communautaire, libre à chacune et à chacun de prier, de parler à Dieu dans son cœur ou de pouvoir partager, ainsi de façon que la communauté puisse partager aussi avec vous cette prière. Merci à Philippe. Et c'est vrai, Seigneur, que l'espérance, au-delà de toute chose, cette espérance de vivre en Christ, de bâtir notre vie sur la résurrection, sur la mort n'est pas une fatalité, mais qu'il y a quelque chose après. Quand c'est fini, ce n'est pas fini. Alors je vous propose que nous ayons un moment de prière ensemble. Et vous aussi qui êtes derrière votre ordinateur ou votre téléviseur, votre écran, vous pouvez vous joindre à nous et aussi dans où vous êtes, priez avec nous dans cette grande famille du Christ. Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu as parlé à nos cœurs, Seigneur, tu as parlé espérance. Et c'est vrai, Seigneur, que cette espérance ne bannit pas la tristesse, la perte d'un être cher, d'un échec ou d'autre chose, d'une séparation. Mais Seigneur, nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur, nous accrocher à cette espérance qu'il y a quelque chose après, qu'il y a quelque chose qui va renaître. Alors Seigneur Jésus, nous voulons nous remettre entre tes mains, remettre nos vies, redire ta souveraineté sur nos vies. Et Seigneur, que ces périodes difficiles, Seigneur, ces tunnels que nous traversons, Seigneur, que nous puissions voir l'autre côté. D'abord ce petit peu de lumière, Seigneur, et se dire, ben voilà, l'espérance est vers toi, l'espérance est dans cette direction. Alors Seigneur, rejoins nos cœurs, Seigneur, rejoins nos situations. Sois avec nous. Et je crois que c'est cette plus grande espérance, cette plus grande certitude d'être avec nous, que tu sois avec nous. Amen. Amen.
Aussi à prier aussi pour tous ceux qui ne croient pas encore en Jésus et qui sont morts spirituellement, qu'ils puissent un jour, Seigneur, ouvrir leur cœur et croire, Seigneur, à cette espérance aussi pour eux. Oh Seigneur, je m'incite à prier beaucoup plus, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont loin de toi, qu'ils puissent trouver, Seigneur, cette espérance dans leur vie. Parce que la vie sans toi, Seigneur, c'est comme si on est mort. Alors, Seigneur, merci. Merci pour cette grande espérance, Seigneur. Qu'après la mort, Seigneur, nous pourrons te voir. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Oui, Seigneur, nous rejoignons cette prière de Nicolas, Seigneur, que tu sois avec Denise tout particulièrement, avec sa famille. Seigneur, aussi avec Marie-Thérèse. Alors, Seigneur, bénis tout particulièrement cette famille. Et Seigneur, nous voulons redire que ce grain de blé qui est tombé en terre, Seigneur, va donner du fruit. Et c'est vrai, nous pensons à Werner, Seigneur, combien de fruits il a donné. Et Seigneur, merci parce que ce fruit va revivre, il va redonner du fruit, le Seigneur va vers une nouvelle vie. Et merci pour ce rappel ce matin, merci pour ta présence, merci pour avoir parlé à nos cœurs, aussi avoir nourri notre réflexion, nourri notre foi, et comme l'a dit aussi Paul Robert, nos doutes, Seigneur, qui sont là et qui des fois ont besoin d'être éclairés par toi. Seigneur, merci pour cette présence, Seigneur, et merci pour nous accompagner. Amen. Je vais vous proposer, pour finir cette prière communautaire, que nous lisions, que nous disions les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos, du rage. Il me paye vers des eaux paisibles. Il me sauve mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais marche dans l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, mon bâton, me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vais demander à Elisabeth de me rejoindre pour les annonces.
Bonjour. Les activités de la semaine. Alors, mardi soir à 20h, atelier biblique sur Zoom encore, suite à la prédication de ce matin. Alors, Philippe prépare des questions, mais c'est un sujet qui est vaste, qui nous touche tous, particulièrement ce matin. Alors, préparez-vous aussi vos questions, vos témoignages, vos remarques. Donc, ce sera, je pense, il y aura de quoi poser des questions et parler. Vous recevrez le lien demain. Peut-être qu'il est déjà arrivé, mais vous le recevrez encore demain. Jeudi soir, séance du conseil. Mercredi, il y a le groupe de jeunes cet été qui se retrouve en présentiel, donc dans cette salle. On peut penser à eux aussi. Le vendredi, le caté à 17h, aussi ici. Peut-être qu'après, ce sera plus tard avec le couvre-feu, plus tard en France, mais cette semaine, c'est encore à 17h ici. Dimanche prochain, culte de Pentecôte, et nous pourrons prendre la Sainte Cène. Alors, dans la même forme que nous l'avons fait à Pâques, mais on est content de pouvoir se réjouir, de pouvoir reprendre la Sainte Cène. Voilà, je crois que c'est tout. Claude, je te donne la parole pour encore une autre annonce.
Oui, alors une annonce alors plutôt estivale, puisque au mois de juillet, le vendredi 9 juillet, nous aurons, l'Église est inscrite pour la participation à Mérin-les-Bains. Donc Mérin-les-Bains est une manifestation communale sur 3 semaines. Et puis, des associations sont sollicitées pour y participer, c'est-à-dire animation. Ça peut être animation des enfants, un repas du soir, différentes choses. Et nous, Mérin, donc on s'est inscrit et nous avons la journée, l'après-midi et le soir du vendredi 9 juillet. Donc au programme, il y a une animation pour les enfants avec la jeunesse, avec la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est une activité autour des caisses à savon. Il y a également la buvette qui sera de 14h jusqu'à la soirée. Nous avons également un repas. Nous avons prévu une raclette avec une salade de fruits faite maison. Et puis le soir, il y aura un ciné transat, donc avec le film Une histoire vraie. Voilà un petit peu le programme qui est mis en place. Nous vous solliciterons, nous vous sollicitons déjà pour des bénévoles tout au long de cette journée. C'est une journée très conviviale et très sympa et chacun donne ce qu'il peut et quand il peut. Donc si vous avez un peu de temps, venez vers moi vous inscrire. Il y a plein d'activités et je pense que ce sera une journée assez chouette. Pour autant que c'est vrai que le temps il fasse beau, mais c'est une journée qu'on a déjà vécue l'année passée et c'est vrai que c'était assez chouette. Donc merci aussi de venir vers moi pour vous inscrire pour l'une ou l'autre de ces animations. Merci. Avant qu'on se quitte, avant que Philippe nous envoie, j'avais à cœur aussi, ou j'avais envie de faire un dernier chant, un petit peu un chant d'envoi. Alors c'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, ce matin, c'était un chant de héritage, enfin qui est repris par héritage. Ne crains rien, je t'aime. Et je pense que sur notre route, sur la route qui s'ouvre pour nous cette semaine, je dirais que j'entends moi Jésus nous dire « Ne crains rien, je t'aime ». Donc je vous propose ce chant. Yeah.
Et je vous invite à vous lever avec cette parole d'envoi que j'emprunte une fois de plus à l'apôtre Paul en Romains 8, puis le verset 35. Jamais tout seul. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce que c'est la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Jamais tout seul, bien accompagné. Allez en paix dans cette nouvelle semaine sous la garde du Seigneur. Bon dimanche.